Carnet de campagne. Bonjour, les carnets passent une semaine dans le Lot, un département qui est partenaire depuis 2015 de la Fondation du patrimoine. Un partenariat qui passe par une dotation financière qui permet entre autres aux particuliers de bénéficier d'un label lors de travaux de restauration d'un bien bâti. Le Lot avait déjà investi un fonds de sauvegarde du petit patrimoine rural nommé Fonds de Neuil. Or, nous n'avons jamais autant parlé de patrimoine depuis le lancement de la mission Berne, en bien comme en moins bien. Moins bien avec les taxes, on l'a appris cette semaine sur ces jeux qui retomberaient dans les caisses de l'État, ce qui n'empêche pas le montant des paris de s'élever entre 15 et 20 millions d'euros destinés au patrimoine. Paris risqué avec l'association des vieilles pierres à un loto de la Française des Jeux. Il pouvait échouer, mais au-delà même du jeu, la sauvegarde du patrimoine bénéficie de plus en plus de financements participatifs. Le patrimoine est encore à l'actualité cette semaine avec le salon à partir d'aujourd'hui international du patrimoine culturel à Paris. Pour ces multiples raisons, nous accueillons aujourd'hui Célia Véraud, directrice générale de la Fondation du patrimoine.
France Inter, carnet de campagne, Philippe Bertrand.
Célia Véraud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice générale de la Fondation du patrimoine. Bienvenue chez nous, bienvenue dans un patrimoine, hein, au lieu du patrimonial de la maison de la radio. Vous êtes à la tête d'une fondation qui existe depuis 22 ans, créée en 1996, qui était destinée, via des entreprises à l'origine de la constitution d'un premier capital destiné à réhabiliter, valoriser, sauvegarder un patrimoine et un patrimoine dit non protégé. Mmh. Alors, finalement, on essaie de comprendre. Il y a un patrimoine qui fait partie d'un espace public et des bâtiments publics et puis il y a un patrimoine qui appartient au domaine privé. Alors, pendant très longtemps, on a fait la distinction entre les deux. Aujourd'hui, vous intervenez autant au profit d'un patrimoine public que d'un patrimoine privé.
Alors, la Fondation du patrimoine, aujourd'hui, elle intervient sur tout type de biens. Mmh. C'est vrai que sa vocation première, c'est plutôt le petit patrimoine rural ou des villes moyennes. Et c'est du patrimoine qui peut appartenir à des collectivités publiques, hein, principalement des communes, mais aussi à des associations, ou qui ont été confiés à des associations, ou à des propriétaires privés. La majorité de nos sites, ils appartiennent à des collectivités et des associations tout de même. Donc elle a été créée effectivement il y a 22 ans. C'est vraiment une association entre le public et le privé. C'est-à-dire que c'est une fondation, donc c'est un organisme privé. Elle a quand même été créée par une loi, donc ça c'est original. Et elle est soutenue au départ par une quinzaine de grandes entreprises qui mettent des fonds pour soutenir ce patrimoine rural. Aujourd'hui, on a aussi des grands mécènes nationaux, on a des mécènes au niveau local, des PME. Et surtout, on a le grand public qui contribue via des dons à hauteur de 15 millions d'euros par an. La moitié de notre budget vient des dons de particuliers. On a créé le mécénat populaire, aujourd'hui on dirait le crowdfunding, il y a une quinzaine d'années. Mais en même temps, on est aussi soutenu en partie par l'État, hein, qui nous verse chaque année des sommes qui viennent de ce qu'on appelle les successions en déshérence.
Mais je croyais qu'il était de plus en plus pauvre.
Alors, je ne sais pas si l'État est plus pauvre, mais c'est vrai que ces sommes que la loi nous attribue, donc c'est les successions sans maître, diminuent pour diverses raisons. On a par contre les collectivités territoriales qui montent en puissance. On a des partenariats avec la plupart des grandes régions métropolitaines, avec des départements aussi, une centaine de départements, ou 80 départements, pardon. Aujourd'hui, ces collectivités, elles nous soutiennent parce que c'est une manière de flécher leur action vers ce patrimoine donc qui, en général, n'est pas protégé par l'État. Ce qui veut dire que notre rôle, il est complémentaire à celui de l'État, qui protège juridiquement et financièrement les monuments historiques. Et puis nous, on s'intéresse au reste.
Même le patrimoine protégé, il faut continuer à l'entretenir. C'est coûteux et parfois, je vois que vous intervenez aussi sur du patrimoine protégé.
Alors c'est vrai qu'on le fait aussi. On participe aussi à des plus grosses opérations. En général, le patrimoine protégé, c'est plus coûteux. C'est des plus gros bâtiments. Et ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que vu le coût des opérations, finalement, on n'arrive pas à boucler les tours de table. À chaque fois, il y a plusieurs cofinanceurs. L'État va toujours mettre sa part, 20% à 40%. Mais les autres cofinanceurs ou le propriétaire, notamment si c'est des petites communes, ils n'y arrivent pas. Et donc nous, on arrive en complément. En général, sur une enveloppe de travaux, on met de 5 à 20% de l'enveloppe. Parfois, c'est beaucoup plus parce qu'on a des souscriptions qui fonctionnent formidablement et on arrive, grâce au mécénat populaire, à financer 100%. Mais c'est l'exception. Et donc, nous, on vient compléter et rendre le projet possible là où on se disait que ça mettrait des années, où on n'arriverait pas à le faire.
Exemple illustre, la maison Pierre Loti.
Alors ça, c'est un exemple qui nous tient particulièrement à cœur, parce que, d'une part, c'est une ville, Rochefort, dans un territoire où il y a besoin d'apporter des fonds pour des projets culturels, touristiques, et qui vont induire de l'activité économique. Donc ça, c'est une évidence. Et d'autre part, parce que c'est un projet qui, l'année dernière, paraissait impossible. On a annoncé à l'époque 11 à 12 millions d'euros de travaux pour un bâtiment qui fait quelques centaines de mètres carrés.
Donc impossible à prendre en charge par une collectivité.
Qui est très précieux, hein, c'est un bâtiment très très intéressant. Il y a des décors qui ont été rapportés par Pialotti de tous ses voyages, notamment en Orient. Mais je veux dire, ça paraissait vraiment beaucoup trop cher. Et d'autre part, il n'y avait pas de financeur en face pour commencer à apporter ces fonds. On avait lancé une première collecte avec la ville de Rochefort sur une partie du mobilier, en l'occurrence une collection d'armes qui avait pas mal fonctionné, mais c'était des petits montants. Et l'inscription de ce bâtiment dans la mission de Stéphane Bern, c'est-à-dire d'une part la possibilité de bénéficier des fonds venant des Jeux organisés par la Française des Jeux, qui servent de démarrage. Donc ça veut dire qu'on peut restaurer une première pièce qui était vraiment en danger avec le plafond qui allait s'effondrer.
Bon. J'ai vu les photos, c'était un état de ruine, hein. C'était de l'abandon complet.
C'est ça. Et puis cette maison est fermée depuis des années, alors que c'est un musée qui est très cher au cœur des Charentais. Bon. On a fait ce premier amorçage avec les fonds venant de la Française des Jeux. Et surtout, la très grande médiatisation qui a entouré toute cette opération, le fait que Stéphane Bern se soit impliqué personnellement, le président de la République aussi, hein, il est venu là-bas, il a visité la maison, et il a dit, essayons de faire un projet qui soit un peu plus raisonnable, mais qu'on va pouvoir réussir, et dans quelques années, on pourra réouvrir. Et là, c'est en train de se passer, c'est-à-dire que on a une perspective d'achèvement en 2022, on va dire, hein, c'est dans 4 ans. Et il y a une partie des financeurs qui sont revenus autour de la table, aujourd'hui sur une enveloppe de travaux qui serait de 7 à 8 millions. Il reste quand même 1,5 million à trouver, et c'est pour ça qu'on lance une grande souscription pour cette maison. Mais ça devient possible.
Et si vous voulez des informations, le site c'est fondation-patrimoine.org.
Carnet de campagne. Philippe Bertrand sur France Inter.
Célia Véro, directrice générale de la Fondation du patrimoine, invitée des carnets de campagne, pour beaucoup de points communs que nous avons cités sur le patrimoine de proximité, l'impact économique et la valorisation de ce patrimoine. Il est petit, moyen, ou parfois plus grand, il peut être industriel, il reste mémorial et il fait partie de cette transmission nécessaire de génération en génération, et puis il devient un pôle d'attractivité aussi pour les territoires, comme l'on dit. Et alors si vous venez aujourd'hui, il y a aussi une raison, c'est qu'aujourd'hui s'ouvre le Salon international du patrimoine culturel à Paris, puisque 2018 est l'année européenne du patrimoine culturel. Patrimoine culturel, alors ça veut dire que on ouvre la notion de patrimoine plus uniquement au bâti et à l'architecture, mais c'est patrimoine immatériel, c'est patrimoine naturel, c'est le patrimoine numérique.
Alors effectivement, on peut avoir une conception très étendue du patrimoine. Hein. Moi-même, je suis pas conservatrice, hein, donc je prétends pas avoir une expertise scientifique. Mais le patrimoine, c'est ce qu'on reconnaît comme ayant une valeur et qu'on veut transmettre. Et donc pour nous, c'est de la culture. Mais on a un point de vue qui est aussi économique et social, en fait, sur ces objets-là. C'est-à-dire qu'ils servent à transmettre notre histoire et notre mémoire, c'est évident. Mais ils sont aussi vraiment résolument tournés vers l'avenir. C'est-à-dire que en faisant des travaux, évidemment, on va faire travailler des entreprises et on va créer de l'emploi. Et puis, on va faire venir des touristes. Donc, on va induire de l'activité, hein, dans la restauration, l'hôtellerie. Et puis encore, en fait, on va créer une source de plaisir et de fierté dans tous ces lieux de France où parfois on a le sentiment que il y a des choses qui se délitent, qu'il y a des bâtiments qui vont pas bien. Donc ça a une influence sur le moral, je crois, en général. Et donc on essaye d'apporter, enfin d'aider en tout cas ceux qui localement ont de la passion et essayent de faire en sorte que des choses se fassent. On essaye de les aider, tout simplement.
Je suis allé sur le site de la Fondation, j'y vais régulièrement pour voir ce qu'il y a en chantier. Alors j'ai relevé, mais ça bouge, ça change tous les jours, 2804 projets en cours.
Ouais.
Comment vous gérez ça ?
Alors oui, c'est une grosse organisation. Donc on a des délégations dans toute la France, avec à chaque fois quelques salariés, et puis des bénévoles qui sont souvent d'anciens cadres économiques ou administratifs, dont le rôle c'est d'aller voir les collectivités, les porteurs de projets, puis d'aller chercher des mécènes, très très concrètement. Donc c'est une formidable force de frappe. Il faut vraiment saluer l'engagement de ces personnes. On pourrait à l'avenir essayer de faire plus. Donc notre ambition c'est quand même de se développer, d'avoir un impact plus important. Alors, c'est vrai que ça fait beaucoup de projets un peu partout.
Les temps changent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui la sensibilisation autour du patrimoine est de plus en plus évidente. Elle est de plus en plus grande. Le loto du patrimoine y contribue certainement. Il se passe quelque chose aujourd'hui.
Alors il s'est passé quelque chose cette année. C'est de vraiment mettre en lumière tout ce travail et surtout l'attachement des Français pour le patrimoine local. Et ce qui s'est passé avec le tirage du loto et le jeu de grattage qui ont été vendus par FDJ, c'est qu'il y a eu un formidable succès populaire. Mmh. Et la Française des Jeux a publié la semaine dernière un sondage, OpinionWay, qui montre que 80% des personnes considèrent qu'il faut soutenir le patrimoine local. Et il y en a 80% qui ont joué cette année qui veulent jouer l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'on a enclenché un mouvement et qui est une vague populaire.
Ben, pour une fois, on dit tout le monde est gagnant. Parce que normalement, le loto, c'est l'inverse. Vous avez un gagnant et les autres sont perdants. Là, tout le monde est gagnant.
Absolument, tout le monde est gagnant. Il y a le patrimoine, il y a tous ceux qui le soutiennent depuis longtemps, qui sont mis en valeur. Il y a la Française des Jeux et l'État. Il va toucher un jour ou l'autre des recettes fiscales grâce à ça. Mmh. Le patrimoine, c'est gagnant-gagnant. Ouais.
Vous parliez, Célia, de la participation des collectivités locales et territoriales. Est-ce que les directions régionales des affaires culturelles contribuent aussi à cette sauvegarde avec la Fondation du patrimoine?
Absolument. Alors cette opération Mission Stéphane Bern, donc on l'a montée sous l'égide de Stéphane Bern lui-même, évidemment, mais en partenariat avec le ministère de la Culture, on a travaillé sur le terrain pour identifier les sites, ça s'est très bien passé. Et puis du côté des collectivités, ce qu'il faut voir, c'est que qu'elles soient propriétaires comme les communes ou qu'elles puissent être financeurs comme les départements et les régions, bon, ils font face à une situation où il faut faire des choix. Et c'est vrai que pour certains, par exemple les questions sociales, hein, notamment au niveau des départements, ça peut être beaucoup plus criant et urgent. Et la crainte, c'est que le patrimoine soit délaissé à cette occasion. Donc nous, ce qu'on a pu faire au travers de l'opération de cette année, c'est leur faire souligner l'intérêt du patrimoine, parce que justement c'est durable, c'est tangible et ça a des effets sociaux et je dirais même psychologiques très importants. Donc si les citoyens s'y intéressent, les collectivités s'y intéressent aussi.
Absolument. Je rappelle le site de la Fondation, fondation-patrimoine.org. Merci Célia.
Merci.
Un autre patrimoine que je vous soumets, c'est celui d'une épicerie locale à Plouguerneau, dans le Finistère, qui est fermée depuis un an. La commune a racheté cette supérette et attend un commerçant qu'elle pourra accompagner avec sa cellule économique locale. La date limite des candidatures est fixée au 5 novembre prochain et vous allez trouver à notre page d'émission un lien avec ce projet d'accueil et de réouverture de l'épicerie de Plouguerneau qui a les pieds dans l'eau. 45 km de côte hein, dans le Finistère. Le lieu est plutôt chouette. Nous, on revient dans le Lot avec Nicolas Stoufflet, le jeudi 1000 euros à Souillac.